jeux vidéo, actualité de vos jeux préférés.
Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 mai 2018, le premier jeudi du mois de mai 2018, et nous sommes dans l'émission Jeux vidéo. Vous êtes sur Iverson Studio, je suis Jake et je suis accompagné de Yakipon.
Salut.
Au sommaire cette semaine, Heroes of the Storm, mais pas comme vous le pensez, vous allez vite comprendre. Également Overwatch, League of Legends, Binding of Isaac, Mega Man, Splatoon 2, et bien sûr les sorties jeux vidéo de la semaine. Et avant de commencer de vous parler concrètement de jeux vidéo, je vais vous parler d'e-sport. Alors c'est un peu exceptionnel, normalement on n'en parle pas ici parce que on préfère se consacrer sur le jeu vidéo en lui-même. Néanmoins là j'y tiens tout simplement parce que je vais vous parler de l'Occitanie e-sport. Et vu que nous sommes de la région Occitanie, voilà, hein, chauvin quoi. Ça va se dérouler le 2 et le 3 juin prochain à Montpellier. C'est dans le cadre de la Gamer Assembly. Et c'est organisé par l'ESL. L'ESL, c'est pas n'importe qui, c'est l'Electronic Sports League. C'est un grand événement. D'après ce qu'ils disent, c'est le plus grand salon e-sport du sud de la France. C'est des tournois de la compétition officielle dans lequel nous retrouverons du Fortnite. C'est le jeu du moment en même temps, hein, c'est normal. Mais aussi du League of Legends, du Hearthstone et du Dragon Ball Fighter Z. Voilà, ce sont les jeux qui seront en tournoi compétitif pour cet événement, l'Occitanie e-sport dans le cadre de la Gamer Assembly. C'est donc une LAN party d'envergure, une LAN party géante qui va réunir plus de 500 joueurs et organisée forcément en partenariat avec la région Occitanie, Montpellier Events qui organise la plupart des events geek gamer sur Montpellier, l'association Futurolan, mais aussi Riot Games pour League of Legends. Le tournoi de LoL sur cet événement rentre dans l'étape officielle qualificative du LoL Open Tour France. Voilà, donc les visiteurs pourront profiter d'animations, d'exposants, des tournois, et ça se déroulera à l'Arena de Montpellier, donc le 2 et 3 juin prochain. Si je me trompe pas, les tarifs visiteurs sont à 10€ pour une journée ou 18€ pour le week-end complet. Ça reste abordable pour ce que c'est. Voilà, c'est moins cher que d'autres événements, par exemple. Pour plus d'infos, vous pouvez aller voir directement le site officiel de l'Occitanie eSports, occitanie-esports.com. En transition, j'enchaîne avec le sujet de cette émission, c'est-à-dire l'actualité du jeu vidéo. Et Heroes of the Storm. Et on ne va pas vous parler de patch, on ne va pas vous parler d'équilibrage, parce qu'il n'y en a pas cette semaine, ou en tout cas pas encore annoncé, parce que le jeu va prendre une nouvelle tournure. Disons qu'ils vont revenir à ce qu'ils nous ont proposé au début de Heroes of the Storm, quand le jeu est sorti, et même avant sa sortie. C'est-à-dire que nous avons un univers qui s'appelle le Nexus, dans lequel gravitent d'autres univers, comme Overwatch, le World of Warcraft, Hearthstone, bon certes, mais ça rentre dans World of Warcraft, Starcraft et Diablo. Et dans ce Nexus, nous avons plusieurs maps, nous avons la tombe de la reine araignée, et les temples du sable là, qui sont un seul et même royaume. Nous avons le comté du dragon, et les jardins de la terreur avec des graines qui sont pareil un seul et même royaume. Nous avons le Val Maudit, les tours du destin et les mines hantées qui sont aussi un seul et même royaume, même s'il y a du frittage entre les deux souverains, et d'autres, etc., etc. Par la suite, sont rajoutées des maps vraiment issues des cultures Diablo, Starcraft, etc. Et donc, ça va changer un petit peu l'histoire d'Heroes of the Storm, parce que on va revenir sur une construction d'histoire autour d'Heroes of the Storm. Nous avons donc le Seigneur Corbeau, qui est au-dessus des royaumes de base d'Heroes of the Storm, du Nexus, et il va vouloir conquérir le reste des royaumes, entre guillemets. Je vous dis entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Pour le conquérir, parce que le mec, il est un peu mégalo, bref. Et donc, nous avons une bande dessinée qui est sortie concernant ce monsieur qui s'appelle l'envol du Seigneur Corbeau, et il va libérer des héros sombres très dark, en même temps sombres et dark, bon vous m'avez compris, notamment une sorte d'armée pour conquérir ce genre de choses. Et nous avons donc un Gul'dan dark, hein, je vais pas vous dire ça autrement, et alors si je me trompe pas c'est Alarak également, voilà,
pardon, c'est bien ça,
très bien merci. Donc il, voilà, il ouvre les portes, les machins, il les met sous sa volonté, et voilà, ils vont donc essayer de conquérir le Nexus par cette force-là. Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va avoir des skins thématiques. On en avait déjà, notamment avec les skins mecha. Donc maintenant, les mechas font partie d'un univers à part entière, un royaume, on va appeler ça comme ça, qui font partie du Nexus. Ce serait bien qu'ils commencent à intégrer des maps issues de World of Warcraft, tout simplement parce qu'il n'y en a aucune. Faut dire ce qu'il y a, il n'y en a aucune. On a des maps inspirées de Diablo, de Starcraft, de Overwatch, mais pas de World of Warcraft. Nous avons donc plusieurs skins, sûrement des emotes, des bannières, tout ça, voilà. Et il n'a pas été annoncé que des champions originaux issus du Nexus arriveront. Ça n'a pas été annoncé. Ça veut dire qu'on va vraiment rester sur des thématiques de map et de skin. Du moins, c'est ce qui a été laissé entendre. Un petit peu comme à League of Legends, où les gardiens de la galaxie, où les skin guardians sont vraiment issus d'un univers parallèle aux champions de base dans LoL. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire sur Heroes of the Storm. C'est très particulier, mais ça peut être intéressant. C'est un sujet à creuser et surtout à surveiller pour voir s'ils vont dans le bon sens ou pas. Voilà. Est-ce que tu as un avis dessus, Yakipon?
Bah, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils font. Ça permet, on va dire, de relancer un petit peu le genre, parce que bon, bah, tu l'as dit tout à l'heure que le Battle Royale, c'était un peu ce qui régnait sur le monde en ce moment, du jeu vidéo du moins. Enfin, j'espère. Et ouais. De relancer un petit MOBA assez sympa, qui est pas forcément, on va dire, prise de tête sur le fait que on n'a pas d'équipement à choper, on a juste des talents. Enfin, je veux pas dire qu'il est facile, il est technique, hein, mais il est, on va dire, plus abordable que d'autres. Voilà, tout simplement. En plus, le fait qu'il soit gratuit, c'est cool, mais le seul hic que j'ai, c'est que ils en avaient parlé pendant un moment, bon, on n'a pas de nouvelles, mais ils voulaient le faire en 64 bits, un truc du genre, ou enfin, ils voulaient essayer d'optimiser le jeu. Je pense qu'ils devraient commencer par ça, en fait, au lieu de sortir des persos que les gens vont acheter ou des trucs comme ça, et qu'après, malheureusement, s'ils peuvent même plus jouer au jeu, bon ben c'est même plus la peine, quoi. C'est un peu débile. Donc ouais, c'est une bonne idée, mais j'aurais d'abord mis l'optimisation du jeu à l'avant. Voilà, tout simplement.
D'autant que ce sont des chiffres qui ont fuité. Blizzard n'a pas communiqué dessus, mais il y a je sais plus quel youtubeur ou streamer vraiment connu qui a creusé le sujet, mais il a été dit qu'il y a plus de 6 millions de joueurs actifs sur Heroes of the Storm, c'est-à-dire qu'actuellement il y a plus de joueurs sur Heroes of the Storm que sur World of Warcraft. C'est pas des blagues. Bon, alors c'est rien à comparer des dizaines de millions de League of Legends, mais c'est veut dire que Heroes of the Storm n'est pas du tout mort, contrairement à ce que les gens pensent, bien au contraire. Il a encore beaucoup d'avenir devant lui.
Donc, tant qu'on est sur Blizzard, j'ai une petite information sur Overwatch et sur la fin, on va dire, de l'event représailles. Bon, ben, ça y est, c'est terminé. C'était quand même assez cool, hein, faut le dire. On s'est bien amusé. Allez voir notre petite vidéo, c'est sympathique. Juste pour vous dire, en fait, que la nouvelle map de Rialto débarque aujourd'hui. Donc, c'est plutôt fun. On l'attend, enfin, c'était, on va dire, assez prévisible. Apparemment, c'est une carte d'escorte, donc c'est cool. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu, je rigole. Non, sans déconner, je trouve que la map est très belle, et qu'il y a beaucoup d'endroits où se planquer, et que ça peut être très vite une map à snipe. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien la map. En plus, là, en version, on va dire, ciel dégagé et enfin, en journée, c'est sympa. J'aime bien. Les couleurs, tout ça, ça me ravit. Petite information aussi, ça y est, Brigitte rejoint désormais le mode compétitif d'Overwatch. On l'attendait depuis un moment, hein, pour certains qui voulaient absolument jouer Brigitte. Ça y est, c'est fait, vous pouvez. Donc, en espérant que le personnage soit pas trop cassé, on va dire, et que ça respecte les codes de la classée, et qu'évidemment, ça permette aux gens de ne pas trop rager. Je garde la main, Thierry, Michel, ou qui tu veux, je m'en fiche. Oh, allez, on va dire Serge aujourd'hui, voilà, c'est parti. Pour le MOBA, évidemment, vu que, bon, les gens vont dire à force que c'est ma spécialité, mais j'ai un petit truc à vous dire sur League of Legends. Alors, on a pas mal de choses sur le sujet. On va commencer d'abord avec le patch 8.9, avec l'arrivée d'un skin assez particulier, mais toujours aussi mignon, j'ai envie de dire. Il s'agit de Bimo, Timo version abeille, et les chromas qui vont avec. La chroma rose est forcément fantastique. On va dire que ceux qui me connaissent à force reconnaissent mes goûts, et donc oui, le Timo rose est assez sympathique. Mais avec ceci, on a beaucoup de changements concernant des objets de mage. je vous propose vraiment de lire la patch note parce qu'il y en a beaucoup à dire et que bon, ben, si vous voulez une émission de 1h30, je vous propose tout simplement d'aller y faire un petit tour. On parle beaucoup de l'anneau de Doran, du chapitre perdu, de la larme de la déesse évidemment, le GLP Extech 800 qui est un très bon objet, évidemment là aussi il faut revoir la chose, le codex méphitique, les ombres jumelles, les protège-bras du savant, la trappe sort qui est un très bon nouvel objet, j'aime beaucoup, sceptre de Rilai, le voleur d'âme de Medjay qui voit encore un changement, l'écho du Luden et plus encore. Sinon, on a une petite mise à jour des tourelles. C'est-à-dire que le pourcentage de la puissance en dégâts passe de 50% à 60%, et il y a une nouvelle petite fonctionnalité, c'est-à-dire que contre les tourelles, si une attaque de base inflige des dégâts supplémentaires dus à la puissance, l'intégralité des dégâts de cette attaque est convertie en dégâts magiques et non plus uniquement les dégâts supplémentaires. Ça, c'est plutôt fun pour certains personnages qui avaient des buffs, on va dire, d'auto-attaque et tout ça. C'est plutôt pratique, enfin, ils vont pouvoir détruire une tourelle, on va dire, un peu mieux, que leur congénère ADC. Concernant le patch en lui-même d'équilibrage, nous parlons un petit peu d'Amumu avec un coup de mana de la bandelette qui est presque réduit de moitié, donc c'est assez impressionnant. On a une mise à jour aussi de Caitlyn qui a une mise à jour sur sa compétence passive le tir dans la tête. Les dégâts contre les non-champions sont égaux à 100%. Et évidemment, c'est modifié par les chances de coups critiques et des dégâts d'attaque toto. Donc bon, c'est assez cool. Bon, ils font que Caitlyn fait un petit peu plus mal sur les sbires. C'est chouette, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais bon, on verra ce que ça donne, évidemment. Docteur Mundo, les soins de son ulti est complètement refait. On était de 40, 50 à 60% des PV max, on passe à 50, 75 et 100%. Donc oui, la petite note qu'ils mettent en plus sur la patch note est assez sympa, c'est Docteur Mundo a besoin d'être plus résistant pour vraiment aller où il veut. C'est rigolo. Garen aussi voit une petite mise à jour de son coup décisif. Les dégâts de base sont augmentés, on va dire, au dernier niveau. C'est-à-dire qu'on passe de 30, 55, 80, 105, 130 à 30, 65, 100, 135 et 170. Donc, petit buff du Garen. Avec la résistance max aussi de son courage qui passe à 40 à la place de 30. Bon, c'est sympa. On a une mise à jour aussi de la compétence passive de Irelia. Dernièrement, Irelia a été refaite. Ils sont en train de la modifier petit à petit. Et donc, les effets monstrueux, ça actualise désormais aussi la durée quand Irelia attaque les grands monstres. Donc, c'est plutôt fort, mais ça reste correct. On a enfin un buff d'hiverne. Ça faisait enfin un petit moment qu'il était au fond du trou et de la forêt, le pauvre. Ils se sont dit, tiens, et si on essayait de dépoussiérer un petit peu l'arbre et délaguer la haie, comme on peut dire. Donc, le changement majeur, c'est sur la compétence passive ami de la forêt. Avant, ça coûtait 25% des PV max et baissé à 22,5%. Ce qui permet, on va dire, un petit peu de fuir en cas de panique totale sur ne serait-ce que le début de la partie. Le délai de maturation est changé aussi, je vous laisse le lire parce qu'il y a beaucoup de chiffres et que c'est quelque chose qui est devenu, on va dire, évolutif avec le temps, ce qui est chouette hein, en soi. En fonction des niveaux, évidemment, de 1 à 6, 7 à 11 et 12 à 14 et après 15+. Vous verrez. Sinon, l'enracinement de Ivern est, on va dire, élargi. C'est chouette, parce que bon, ce skill shot était assez compliqué à placer, et c'est un petit peu l'essence du personnage, donc bon, ils essaient de le rééquilibrer, je trouve ça chouette. Kai'Sa, par contre, se fait nerfer. La pluie d'Ikatia, quand elle a évolué, passe de 12 projectiles à 10, et les dégâts des projectiles sont désormais toujours considérés comme un effet de zone, ce qui peut être, on va dire, un peu nerfé pour certaines choses. Pareil, pour son surpasseur, la durée est baissée de 5 à 4 secondes, et les projectiles de l'ouragan de Runan ne permettent plus de réduire le délai de récupération du surpresseur, ce qui est, à mon avis, plus que logique. Kassadin, les PV du bouclier sont augmentés sur le A, on va dire au premier niveau, il reste inchangé à la fin, c'est quand même toujours appréciable. Kennen, gros changement de Kennen aussi. La surtension, les dégâts de base de l'attaque, de la cinquième attaque, pardon, sont baissés au premier niveau, mais augmentés de pas mal à la fin. Les ratios de dégâts sont augmentés, c'est-à-dire qu'avant on était sur 60% de dégâts d'attaque supplémentaires à tous les niveaux, on est à 60, 70, 80, 90 et 100% maintenant. Le ratio de puissance a été baissé vu que, on va dire, les ratios de dégâts étaient augmentés. Les dégâts de base de la propriété active sont baissés aussi pour essayer de réduire forcément les dégâts augmentés de l'attaque. Et les ratios de puissance de la propriété active sont augmentés par contre de 0,55 à 0,8, ce qui est quand même assez gros. Donc petit buff du Kennen, et évidemment le rush foudroyant a été revu lui aussi. C'est-à-dire que Kennen gagne 30 à 70% de vitesse d'attaque pendant 4 secondes en sortant du rush foudroyant. Et pour les plus impatients, les bonus défensifs du rush foudroyant sont perdus en sortant du rush foudroyant. Là, j'ai envie de dire, c'est chouette ce qu'ils ont fait sur Kennen, parce que le rush foudroyant, c'était forcément ce qui lui permettait d'engager avec son ulti, évidemment. Mais son ulti est tellement, je dirais pas faible, il est bien, hein, mais il fait pas assez de dégâts. Donc le fait de lui donner un petit peu de vitesse d'attaque pour qu'il puisse compenser le manque de dégâts de son ulti peut être sympathique. Donc revoir du Kennen, moi ça me va, parce que c'est un personnage que j'affectionnais beaucoup et qui est reparti lui aussi dans les abîmes. Apparemment, tous les persos que j'aime se sont fait nerfer, donc bon, je cherche même plus. Leona, des dégâts de base de son Z sont augmentés, c'est chouette. Elle peut faire un peu plus de dégâts. Lux, par contre, on a des changements. Elle a des bonus de vitesse d'attaque au niveau 1. Des stats de croissance en vitesse d'attaque qui sont réduits, par contre, évidemment. Mais bon, ça s'appelle un équilibrage. Les stats de croissance en PV sont baissés. Par contre, concernant ses sorts, les dégâts de base d'entrave de lumière sont augmentés au premier niveau. Ça, c'est pas cool. Les délais de récupération passent à 10 secondes à tous les niveaux, avant qu'il était à 13 au premier niveau et baissé à 11 au maximum. Et le coût de mana est baissé aussi de base. Bon, c'est pas cool. Cool, parce que Lux, ça fait vraiment très mal, et vraiment aussi au premier niveau, elle était un peu faible, et ce qui permettait, on va dire, de prendre l'avantage. Si maintenant elle est balèze sur tous les niveaux, ça devient vite compliqué. Vous avez aussi des changements sur la barrière et l'anomalie, mais bon, ça reste, on va dire, assez sympa. Rammus, un petit bonus d'armure sur le Z qui a été augmenté de 20 à 30, c'est sympa. Gros changement sur Poppy, mais là, beaucoup de choses, donc je vous conseille de vous y pencher dessus si vous jouez Poppy. Shyvana, le ratio du E a été augmenté, mais par contre celui du Z a été supprimé. Par contre, celui du vol du dragon est augmenté lui aussi. Donc petit buff de Shyvana. Sona, les dégâts d'attaque de base sont augmentés de 3 points, ce qui est quand même assez sympathique. Et la compétence passive accord de puissance est augmentée elle aussi. Ça faisait pas assez mal apparemment, c'est marrant. Syndra, le bonus de transcendance du A se traduit désormais en dégâts supplémentaires contre les champions, pas en durée supplémentaire pour les sphères. Bon, c'est à voir en jeu ce que ça va donner, pour l'instant on verra ce que ça donne, hein. Il faut tester pour évidemment pouvoir critiquer. Talon, des correctifs de bugs, Warwick, des petits dégâts d'attaque en moins, et un pourcentage des PV max de la cible en dégâts qui sont réduits, donc petit nerf. Ziggs, par contre, les mines explosives sont augmentées en dégâts, donc c'est chouette, ça faisait un petit peu longtemps que Ziggs avait pas subi un équilibrage. En même temps, ils sont en train de refaire les mages, donc bon, on verra ce que ça donne. Dernière petite nouveauté, je vous l'ai dit, des skins qui arrivent comme Timo Abeille et Evelynn Lune de Sang, qui est quand même assez cool, hein, faut le dire. Donc en ce moment, Evelynn, c'est sympa. Des chromas aussi qui arrivent, je vous l'ai dit, pour Timo Abeille, mais aussi pour Mécation Zéro. Voilà, tout simplement. Je termine mon petit monologue sur League of Legends. Désolé Jake, j'ai encore une petite info. Ça concerne les changements majeurs sur les parties classées pour la saison 9. Alors, en gros du gros du gros, il se peut, c'est dit comme ça pour l'instant, on verra ce que ça donne, il se peut qu'en fait on ait une cote pour chaque emplacement dans le jeu. C'est-à-dire que vous pourrez, exemple, être Silver 4 en jouant jungle, mais par contre être Gold 5 en jouant top. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi être bronze en étant mid. Donc je trouve ça sympathique, ça permet enfin de se spécialiser, à voir maintenant le matchmaking va se faire, évidemment, c'est la plus grosse question, hein. Comment ils vont gérer toute cette merde maintenant. Bon, on verra, et évidemment, on vous tient au courant. C'est bon Jake, tu peux continuer à discuter.
Bonjour, ça va?
Oui, et toi?
Ça va, et ça va bien parce que je suis content. Enfin, content et pas content, parce que je vais vous parler de Megaman. Ça fait longtemps, dis donc. On va fêter très prochainement les 30 ans de la série de Megaman, hein, et Capcom et le site IAM 8-bit, donc 8-byte, renouvellent un peu leur partenariat, mais pour ressortir Megaman 2 et Megaman X. Alors attention, ressortir en version physique, mais dans des cartouches collector d'époque. C'est-à-dire que ce sont des cartouches qui ressortent pour la NES et la SNES. Oui, vous avez bien entendu. Prix de ces choses-là, sachant que ce sont du collector, limité à 8500 exemplaires la cartouche, enfin chaque cartouche, pardon. Il faut compter $100 le jeu, tout cartouche, collector, sans compter les frais de port. Les expéditions sont prévues pour septembre 2018. Alors, c'est très bien pour les super fans et les gros collectionneurs. Là, je vous dis, foncez. Pour ceux qui sont un petit peu moins collectionneurs, allez-y réfléchissez-y, à plusieurs fois avant d'y mettre l'argent dedans. Parce que 100 balles, donc 200 maintenant pour les deux cartouches, ça fait mal quand même. On parle d'un jeu NES et d'un jeu SNES. Voilà, c'était tout pour Megaman. Du coup, je pense que tu vas nous parler de quelque chose sur la Switch avec des poulpes et de l'encre, c'est ça?
Oui, évidemment, le petit point Splatoon, ça fait toujours plaisir. Donc Splatoon, vite fait, hein, je vais pas en parler non plus des heures et des heures, parce que les gens diraient que je suis un escroc. Mais non, c'est juste que le festival se prépare pour Splatoon, et bon, cette fois-ci, Nintendo va nous demander un choix assez bizarre, parce qu'apparemment, Nintendo s'est associé avec Nickelodeon pour cet event, et donc, l'event sera de choisir entre Raphaël et Leonardo des Tortues Ninja. Alors, les gens diront « Oh, c'est chouette, les Tortues Ninja !» Non, c'est les nouvelles, elles sont moches. Voilà. C'est en fait, apparemment, il y a une série qui sort des Tortues Ninja qui est, on va dire, mis au goût du jour avec des dessins, je sais pas, très manga, je dirais.
Ouais.
Donc, c'est la nouvelle série animée qui commence à partir du 5 mai, apparemment. Je pense que je vais éviter ça. Mais bon, enfin, on va dire pour Nintendo, c'est sympa de voir qu'il commence à s'affilier avec beaucoup de monde pour faire beaucoup de choses. Qui te jette ça dans Splatoon en mode démerdez-vous, je sais pas. Qu'est-ce que Splatoon a à voir avec les Tortues Ninja? Si encore c'était un dessin animé sur des poulpes, je peux le comprendre. Y a pas de souci, tu vois, je peux concevoir, je vois le rapport. Là, y en a pas. Mais bon, ça changera, on va dire, des festivals, on va dire, douteux qu'on s'est tapé sur Splatoon. Bon, on verra si ça plaît ou pas. Je reste informé là-dessus. Donc oui, petit Jake, je vais te parler encore une fois de Splatoon, hein. C'est mon point Splatoon, ça commence à faire des semaines, mais je continue. Il se passe toujours des choses. Et là, en fait, on a des nouveautés concernant les festivals qui vont arriver. Ce samedi 5 mai commencera un festival, mais avant de vous dire ce qu'il en est, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, Nintendo s'est affilié avec Nickelodeon pour ces deux festivals qui vont arriver, je vous le dis juste après. Et en fait, ça concernera un nouveau show de Nickelodeon qui s'appelle The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Pour les Français, c'est, on va dire, les nouvelles Tortues Ninja. Donc, en soi, que Nintendo s'affilie à Nickelodeon, pourquoi pas, qui te jette, on va dire, les Tortues Ninja sur Splatoon comme ça, en mode démerde-toi, ça me plaît moins. Bon, ça ne reste évidemment que mon avis. Et puis ça sera, on va dire, mieux que les festivals douteux qu'on s'est tapé sur Splatoon 2. Bref, donc, vous l'avez compris, pourquoi les Tortues Ninja, maintenant, vous savez. Et tout simplement, en fait, ils vont faire deux festivals. Le premier tour sera, donc, du 5 mai au 6 mai, on aura donc Raphaël contre Leonardo. Du 12 mai au 13 mai, on aura Michelangelo contre Donatello. Et enfin, du 19 mai au 20 mai, on aura la finale. Alors, en vrai, le système de ce festival est sympa. Après, que ça soit les Tortues Ninja, reste, on va dire, discutable. C'est cool, on va dire, que sur 3 semaines, ils fassent un même event, en fait. On peut appeler ça un event, bon, même si c'est que le week-end, évidemment. Qui sortent ça sur Splatoon, je parle du système, encore une fois. Les gens vont dire, ouais, tu te contredis, tu dis que c'est bien, mais après tu dis que c'est pas bien. Non, je dis que le système de tournoi de festival, c'est sympa. Après, que ça soit les Tortues Ninja, j'ai un peu de mal. Surtout que j'ai vu la tronche des nouvelles Tortues Ninja, les dessins sont très, très axés manga, et on va dire que pour les puristes comme moi des vieux dessins animés, on peut dire que c'est un sacrilège. Bon, à voir comment ça se dégoupille, mais bon, les dessins animés de maintenant, je les trouve pas forcément géniaux. Bon, après, j'ai grandi, hein, heureusement. Mais voilà, tout simplement, c'était mon petit point Splatoon 2 avec un système, je précise bien, un système sympathique de festival. Je vais garder la main, après Serge, Thierry et tout le reste, on va passer à Guy, tiens. Bizarrement, ce sont mes deux seconds prénoms, mais personne ne l'aura remarqué. Alors, pour Isaac, j'en perds mes mots. Je vais vous parler un petit peu de The Binding of Isaac. Après 7 ans du premier Binding of Isaac, Edmund Macmillan nous offre une ultime mise à jour à Afterbus Plus qui s'appelle The Forgotten Update. Alors moi, je suis plus que hypé, évidemment. Hein, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué à The Binding of Isaac. Enfin, je vais pouvoir y remettre les pieds. Parce qu'il nous donne un nouveau personnage, déjà. Ne serait-ce que ça. Se dire, on a un nouveau perso à faire, on va dire, évoluer tout ça, je trouve ça merveilleux. On a des nouveaux objets, des babioles, des ennemis inédits, donc j'espère qu'on va se retrouver avec des boss. Ça serait bien d'avoir aussi une nouvelle fin. On avait le Delirium, j'aimerais bien qu'on passe sur un autre boss, on va dire, encore plus difficile. Déjà que le jeu n'est pas simple. Bon, évidemment, ça reste que comme mon côté de roguelikeur, hein, qui dit ça. On aura quand même plus de 800 pièces supplémentaires à explorer. Il sera également possible de se frotter à un nouveau boss, hein, c'est dit. Les plus curieux peuvent également se plonger dans une liste de tous les ajustements du gameplay. Bon, ça, c'est un petit correctif de mise à jour. Je pense qu'il y a des objets qui sont nerfés et d'autres, on va dire, uppés. Je suis plus que content, hein, sans déconner, de voir du Binding of Isaac, de voir que Edmund Macmillan nous récompense année après année avec ce jeu et qui nous régale, tout simplement. C'est vraiment un des meilleurs roguelikes que j'ai jamais fait de ma vie. Et je suis très content d'avoir cette mise à jour. Je sais, ça fait vraiment gnangnan, mais pour les gros fans, je pense qu'ils me comprennent et qui diront, ben, foncez et torchez la gueule de votre mère et de son vagin. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il vient de dire?
Une petite news Hearthstone. Entre le 10 et le 13 mai prochain, on va avoir un nouvel événement sur Hearthstone, donc le Jardin des Nobles. C'est un événement temporaire. C'est un événement qui fait forcément référence au Jardin des Nobles sur World of Warcraft. Donc le Jardin des Nobles, c'est ramasser des œufs de Pâques avec des petits lapins, du chocolat, tout ça. Donc, on a eu un Jardin des Nobles il y a à peu près un mois sur World of Warcraft, et là, on va pouvoir récupérer des œufs dorés à chacune de nos connexions entre le 10 et le 13 mai qui arrive. Plus précisément, des œufs, ces œufs seront un œuf nappeur et un œuf de diablosaure doré qui débarque avec un nouveau bras de fer. Le nouveau bras de fer s'appelle Lapin. Je vous laisse digérer ce nom. Sur cette thématique, il va falloir faire équipe avec d'autres joueurs afin de décorer des œufs. Et pour cela, on aura à disposition un deck rempli de couleurs vives et de cartes spéciales du Jardin des Nobles, ainsi que 10 cartes aléatoires. Et selon les modifications effectuées, on va obtenir des petites créatures ou un lapin si on n'utilise aucune couleur. Voilà, sur ce, on conclut cette émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine ? Mardi 1er mai sur PC, un jeu qui s'appelle Beat Saber. C'est un jeu de rythme en réalité virtuelle, en VR donc, où on doit suivre en rythme les battements de la musique représentés par des cubes. Ces derniers nous indiquent quelle main utiliser et dans quelle direction on doit porter notre coup, parce qu'on fait comme si on tenait un sabre laser. On a une bande de son très dynamique composée spécialement pour nous permettre de frapper au bon moment. C'est un jeu de rythme en VR, en gros, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus.
Je vais continuer les sorties de la semaine avec Killing Floor Incursion sur PS4. C'est le nouvel opus de la saga qui est entièrement dédié à la réalité virtuelle cette fois-ci, hein, on continue sur la VR. Vous vous immergez complètement au sein d'un univers qui est vraiment horrifique et vous affrontez en solo ou en coop les hordes de Zed, donc... À vous de voir si vous voulez amener une petite flippette avec vous en VR. Je pense que ça peut être assez sympathique pour ceux qui aiment le genre.
Tiens, on est dans un thème réalité virtuelle, on va rester dedans là. Toujours au même jour, sur Xbox One, Battlezone, c'est un jeu qui utilise la réalité virtuelle, dis donc, on ne savait pas, pour amener le joueur sur des champs de bataille futuristes remplis de véhicules qui sont très 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 bien armés. Où il y a 4 factions qui doivent s'affronter pour devenir le maître de la Battlezone. En fait, c'est un jeu qui vous permet de tester la réalité virtuelle plus qu'autre chose. Voilà.
Aujourd'hui, le jeudi 3 mai, Nilumbra, tiens donc, c'est un jeu que je ne connais pas du tout, ça. C'est un jeu qui sort sur Switch, on vous en avait parlé, il sort enfin, voilà, tout simplement. Donc, ce jeu est sympathique, l'histoire est assez cool, le narrateur se moque beaucoup de vous, mais c'est rigolo. Et ce jeu, en fait, est une espèce de puzzle game, donc je vous le conseille, il est assez sympathique.
Et si vous voulez vous faire une idée dessus, on vous invite très fortement à aller chercher sur notre chaîne YouTube, Ivasson Studio, le Let's Play Nilumbra que Yakipon avait fait.
Exactement.
Pour terminer, vendredi 4 mai, je l'attends dans ma boîte aux lettres, Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Nintendo Switch. Donc il faut savoir que c'est un remake du jeu qui était sorti sur Wii U. C'est de la plateforme, c'est du DK, c'est du classique, mais dans cet épisode, la famille Kong va lutter contre des vikings, forcément ils sont venus des mers du Nord, et on va traverser des niveaux avec 6 îles différentes, en solo ou en coop, avec les différents personnages. La nouveauté de cette version offre en plus la possibilité de jouer Funky Kong dans un nouveau mode. Vas-y, crash dessus.
Ok, merci. Alors, le fait qu'ils ressortent ce jeu sur Switch, bon, ça je passe outre parce que bon, ben, j'attends un remake dans pas longtemps qui s'appelle Hyrule Warriors, bref. Non, ce qui me plaît pas, c'est la possibilité de jouer Funky Kong. En vrai, s'ils avaient laissé, on va dire, Funky Kong comme ça, en mode, bon, ben, c'est un nouveau perso jouable, ok. Le nouveau mode, en fait, c'est un nouveau mode qui casse, on va dire, un petit peu le principe de Donkey Kong Country Tropical Freeze. C'est que les nouveaux Donkey Kong Country, qui étaient sortis sur Wii et tout, c'est des jeux purs speedrunnables. Mais vraiment purs. C'est-à-dire il faut faire vraiment gaffe à la route que tu prends, faut faire gaffe aux ennemis et tout. Enfin, c'était vraiment super tendu de faire de très 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 bons scores sur Donkey Kong Country. Là, Funky Kong, en fait, c'est t'appuies sur un bouton et en gros, t'es invincible. Genre vraiment. Donc je sais pas si enfin, j'espère pas que ça sera accepté au niveau du speedrun, hein, vraiment. Parce que je crois qu'il y a quand même un gros mode de jeu contre la montre avec des rankings, on va dire, par pays, tout ça. Enfin, je crois, hein, mais j'en suis plus très sûr. Ça fait longtemps, ça remonte. Donc ouais, le Funky Kong, en fait, casse tout le jeu. C'est ça qui me dérange. Après qu'ils le ressortent, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ceux qui n'y ont jamais joué, tant mieux, ils vont pouvoir y jouer, mais ouais, Funky Kong, ça me plaît pas. Voilà.
Après, c'est comme à peu près dans tous les jeux speedrunnables, il y aura juste une catégorie de speedrun en plus. Ça va pas forcément changer les speedruns d'avant.
Oui, on verra.
Et après, bon, je ne connais pas ce jeu-là, j'y ai passé outre parce que je ne possédais pas une Wii U, du coup je lève la main en mode je ne connais pas le jeu, ça m'intéresse. Voilà. J'essaye de défendre un petit peu le...
Ah non, non, mais je comprends parfaitement ton point de vue, tu l'as jamais fait, t'as envie de le faire, c'est cool, vraiment. C'est un très bon jeu. C'est juste que Funky Kong, ça casse toute l'essence, en fait. C'est ça qui me gonfle. Ça reste vraiment comme mon avis, hein. Je dis pas que le jeu est mauvais.
Voilà, allez, on termine là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news de l'actualité du jeu vidéo. Et tu as évoqué Hyrule Warriors. Je suppose qu'on en reparlera la semaine prochaine parce que, en effet, la sortie approche. Ou la semaine d'après, le cas échéant. Il est fort possible qu'on vous en parle un petit peu plus en détail parce que, comme tu l'as dit, tu l'attends et je l'attends aussi de mon côté. Bon, certes pour la collection, mais du coup, ça veut dire qu'on va le tester. Donc, on vous en reparlera aussi. Pour suivre toute notre actualité, une seule chose à faire, vous allez sur internet et vous tapez evasonstudio.com. Vous avez toutes nos chroniques, nos replays de let's play, de stream pour le peu qu'on en fait. Et surtout, cette émission-là, jeux vidéo, on vous fait des bisous et on vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end.
On vous aime.
Réécoutez ce programme en podcast sur notre site ivasandstudio.com.